Merci Tiphaine et bon week-end. Aujourd'hui, mise en abîme et histoire de bouche à oreille, Abigail Lang et Pierre-Marie Héron se demandent ce que la poésie a fait à la radio et la radio à la poésie, tandis que Thomas Baumgartner se lance à sa poursuite et en fait même une impulsion d'écrire.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Dans la radio, par Jacques, 2017, sous le label Pain Surprise Records, enregistré pour l'essentiel ici même, à la Maison de la Radio, avec des objets trouvés sur place. Dans la radio, nous y sommes, Thierry Baumgartner, Pierre-Marie Héron, Abigail Lang, pour une heure. C'est bien d'elle qu'il va être question, la radio étant ce qui permet à l'être humain de sortir de son corps, dites-vous Thomas Baumgartner. Pierre-Marie Héron, professeur à l'université Paul-Valéry, Montpellier 3, vous êtes avec nous depuis France Bleu Héros et vous co-signez un ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Rennes, titré « Poésie sur les ondes, la voix des poètes producteurs à la radio ». Ouvrage, comme ça tombe bien, auquel vous avez participé, Abigail Lang, américaniste, maître de conférence à Paris Diderot. Question, et il y en a beaucoup, quelle image de la poésie la radio a-t-elle bien pu fabriquer? En quoi lui est-elle utile? Qu'est-ce que la poésie a fait à la radio? Qu'est-ce qu'un producteur lorsqu'il est poète? Et inversement, comment la dire, cette poésie? Comment la lire? À qui la lire? Pourquoi? Qu'est-ce que ce serait qu'un usage poétique de la radio? Qu'est-ce qui ferait d'ailleurs de la radio un médium plus poétique? Et je mets ce poétique, mon Dieu, avec entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, davantage poétique qu'un autre, Thomas Baumgartner.
Parce qu'on choisit, parce qu'on se dit que c'est ça, et à partir du moment où on le performe, c'est qu'on va le fabriquer comme quelque chose de poétique. Ça, c'est une première réponse, peut-être après. Il y a une dimension qu'on oublie à la radio parce que on en a l'habitude, mais que ce soit en tant qu'auditeur ou en tant que fabricant de radio, on va dire, c'est cette magie, ce que vous disiez à l'instant, l'absence de corps, et pourtant la présence. Et tout d'un coup, quelque chose de surnaturel survient. Alors, on en a l'habitude maintenant d'allumer la radio, de l'écouter de toutes les manières possibles.
De la voir même. Hein.
Et maintenant, on la voit. Alors, est-ce que ça tout d'un coup fait apparaître le corps? Oui, tout d'un coup, il y a quelque chose d'hybride qui arrive, qui a d'autres, sans doute d'autres qualités, mais sur cette présence et cette absence en même temps, je pense que ça fait, c'est quelque chose de poétique à partir du moment où on le questionne en particulier.
Pierre-Marie Héron.
Je pense que tout simplement, ça renvoie à la question de la création. Est-ce qu'on peut créer une œuvre radiophonique? Eh bien, oui, à mon avis, une fois qu'on considère que le langage prioritaire, c'est ce qui fait la spécificité du médium radio, à savoir un complexe de sons, de silence, donc de bruit, de paroles, de musique et de silence, des quatre mamelles de la radio, comme disait Alain Truitard.
Thomas Baumgartner, longtemps producteur ici même à France Culture, vous avez, disons, œuvré, osé à peu près tous les postes, formats, registres. Je pense notamment au Grain à Moudre, je pense au Matin parfois, je pense à l'Atelier du Son, aux Mythologies de Poche de la radio, je pense aux Passagers de la Nuit, enfin je ne vais pas tout citer. Et je me demandais, pour vous, Thomas Baumgartner, où commençait la radio, c'est-à-dire le geste même de la radio. Est-ce que c'est ici, à la table? Est-ce que c'est à la plume ou à l'ordinateur? Est-ce que c'est à la lumière rouge? Est-ce que c'est dans les couloirs? Est-ce que c'est à l'interrupteur de la lumière dans le studio, comme vous le suggérez dans votre livre? À partir de quand, de quoi est-ce qu'il y a radio?
On peut commencer à l'émission bien avant que le micro s'ouvre, effectivement. Ça peut être une qualité ou un défaut, mais je pense qu'une émission, elle se projette mentalement, quitte à ce qu'on la détricote, qu'on détricote cette projection une fois que le micro s'ouvre, mais même dans le couloir, dans une discussion avec quelqu'un qui passe sur le chemin du studio ou 3 jours avant, pourquoi pas, l'émission a déjà commencé.
Alors je note par ailleurs, Thomas Baumgartner, que vous avez publié il y a un peu plus de 10 ans, je crois, hein, L'oreille en coin, une radio dans la radio, Le goût de la radio et autres sons, ça c'était en 2013 au Mercure de France, et puis aujourd'hui, l'hypothèse du baobab, note sur la radio. Est-ce qu'il faut comprendre que au fond la radio vous fait écrire ou que vous avez besoin d'elle pour écrire?
Je pense que la radio comprend dans ce qu'elle est, dans cette part magique dont on parlait à l'instant, effectivement un possible moteur d'écriture. J'ai pas écrit sur la radio par frustration de ne pas en faire, puisque j'en ai fait, j'en ferai, mais parce que c'est une matière qui est agréable sur laquelle écrire, parce que justement il y a cette part d'incomplétude constante et en même temps d'une richesse absolue. Donc c'est ce paradoxe là qui crée une tension et qui m'a donné envie d'écrire de différentes manières dessus. Et cette dimension là de essayer de faire le tour, de faire ce mouvement d'épuisement impossible évidemment autour de cet objet crée un élan que moi j'espère poétique, c'est-à-dire que ces notes sur la radio évidemment c'est des choses auxquelles je crois, mais j'espère qu'il y a une dimension dans la lecture qui va un peu au-delà de l'analyse médiatique, on va dire.
C'est dans ce sens-là aussi, au fond, qu'on pourrait faire le lien, c'est-à-dire pas simplement comme une impulsion, mais vraiment dans l'écriture elle-même, c'est-à-dire le processus d'écriture lui-même, dans ces notes sur la radio, parce que à vous lire, vous plaidez clairement pour une radio à relief, hein, donc pour une radio avec syncope, avec accident, avec désordre, avec faiblesse même, d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, au fond, dans la construction même, et dans ces notes, dans ces fragments, dans ces petits bouts d'écriture.
Moi, j'ai appris, par exemple, l'importance, le caractère indispensable de la question du rythme, par exemple, en travaillant en faisant de la radio et en discutant avec des gens de radio. La question du rythme, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire des moments de plein et des moments de creux, des accidents, des moments maîtrisés. Et cette question du rythme, c'est aussi une question littéraire. Écrire, c'est aussi donner évidemment un rythme, des moments de densité, des moments de doute. Par exemple, dans ce livre-là, j'espère avoir... en tout cas, j'ai tenté de faire ça.
Des doutes, la radio, c'est d'abord ça, c'est quelque chose qui, par définition, échappe toujours.
La question de ce qui échappe est fondamentale pour moi. C'est-à-dire que quand on fait de la radio, on maîtrise à peu près, on sait ce qu'on veut émettre. On organise une émission ou un reportage ou ce qu'on doit fabriquer. On l'organise autant qu'on peut. Et on l'émet. Et à partir du moment où c'est émis, ça part. Donc on ne sait pas ce qui arrive de l'autre côté, ce qui est retenu, ce qui continue de travailler après. Quand on fabrique de la radio, on a la chance parfois de rencontrer des auditeurs et qui nous disent que telle ou telle chose a pu compter pour eux ou les a marqués. Et c'est jamais vraiment ce qu'on imagine. Ça échappe complètement. Et donc après, la question du... déjà, cette première chose, forcément... pousse à la modestie, qu'on est là pour fabriquer de la radio et on voit ce qui se passe après.
Alors ce livre, l'hypothèse du baobab, ce sont donc 5 chapitres, Thomas Baumgartner, des fragments, hein, ça parle des contours impossibles de la radio, d'une théorie du micro, de la question du flux, de l'antenne, de l'espace numérique, de la réécoute. Ça égrène aussi quelques leçons, quelques projets, hypothèses et même quelques portraits, histoires de voix de radio en contrebandier, hein, on y reviendra. Et puis pour commencer parmi toutes ces hypothèses et ces zigzags, la question de la situation radiophonique. Qu'est-ce que c'est qu'une situation radiophonique, hein?
C'est prendre conscience que le moment où la radio se fabrique n'est pas un moment anodin et que toute une même question posée à un autre moment n'aura pas la même réponse et que partant de là, en prenant conscience de ce fait, on peut décider que la situation est un terrain de jeu et que ce terrain de jeu va avoir des règles du jeu qu'on peut partager avec les auditeurs et évidemment avec le ou l'interlocutrice ou l'interlocuteur ou les interlocuteurs qu'on aura en face de soi. Et vous parliez de relief tout à l'heure, c'est comment transformer en fait le moment de l'émission en une forme d'aventure partagée avec l'auditeur, avec s'il y a une règle du jeu et un jeu, peut-être un résultat à la fin. Alors pas forcément pour gagner telle ou telle chose, mais ça revient à une chose qui est importante pour moi, qui est la question de la contrainte, la contrainte créatrice, évidemment développée chez Perec ou à Loulipo.
Tu l'as rappelé que vous êtes à l'origine, notamment de... Alors, je le dis dans le bon sens...
L'ouvroir de radiophonie potentielle. Oui, on avait inventé ça il y a quelques années avec des camarades de radio, Arte Radio, l'Ourapo.
L'Ourapo, merci, voilà. c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure.
Puis Perec est une figure essentielle pour moi, mais sans aller jusqu'à cette radicalité-là, effectivement, on est autour, là en l'occurrence par exemple, autour d'une table, et la situation c'est celle de la règle que vous avez donnée tout à l'heure, de l'ordre de l'interview, voilà, donc c'est une manière de s'amuser aussi, voilà. Prendre conscience de la situation, c'est s'amuser avec la radio.
Alors une situation radiophonique, bon, ça n'a pas forcément à voir avec l'état de ma voix aujourd'hui, mais ça peut être ça.
Mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas un autre mot?
Non, c'est le titre de l'émission.
Oui, mais je me fous, ça veut dire quoi? Je ne connais pas le mot éclectique. C'est quoi la définition exacte d'éclectique?
Ça veut dire une curiosité tous azimuts.
Voilà. Alors voilà, bon, je dis pas éclectique, tu veux parler de ça?
J'aimerais que vous disiez, c'était le journal de France Inter et maintenant c'est éclectique.
Ben, c'était le journal de France Inter et maintenant c'est vivant. C'est éclectique. Rebecca, éclectique.
J'étais presque à Faune ce jour-là et au début il m'a dit « Salut Sandra !» Ah non, moi c'est Rebecca. Faut pas que ça traîne. Depardieu aime quand ça va vite. Moi, je suis pour foutre le camp dans la vie. Ça lui va bien, ce mot d'Arletty. Il me faut repréciser que ce jour-là, j'avais encore moins de voix qu'aujourd'hui. J'étais quasi à Faune. Alors vous pensez si la journaliste radio sans voix, ça l'a fait marrer, Depardieu. Je lui ai annoncé cependant, je n'ai pas de voix, d'accord. Quoi qu'il en soit, on va causer pendant une heure.
Une heure, mais ça va pas?
Bah ouais, si. Ça...
Mais non, dis donc.
Ah, je vous jure.
Mais oui, mais je parle une heure avec quelqu'un qui a une voix. Comme
ah,
mais... Voilà ton miel. Tiens, là, ça, puis donne-lui un thé. Là. Elle est mignonne, t'as vu?
Je vais pas pouvoir faire ça, moi. Mais vous le ferez pour moi.
L'appétit vient en mangeant. 1,38$, 39. Bien.
Petit montage réalisé par François Connac, notre réalisateur. C'était le 7 février 2010 sur France Inter, Rebecca Manzoni, pour un numéro d'éclectique dans un restaurant avec Gérard Depardieu. On l'aura reconnu, elle, à Faune, ou presque. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans une telle situation, Thomas Baumgartner, pour que vous souhaitiez non seulement la faire entendre, mais encore vous en souvenir et l'évoquer dans votre livre, L'hypothèse du baobab?
On parlait de situation radiophonique, donc là, Rebecca Manzoni subit la situation, parce que elle a pas, c'est vrai que du jeu qui est celle d'un reportage, d'une rencontre, dans un lieu habituellement plutôt familier, si je me souviens bien, de son invité. Là, elle se retrouve dans le restaurant de Gérard Depardieu, qui avait oublié qu'il avait rendez-vous avec elle, et elle arrive à Faune. Donc, on imagine bien que... Enfin, possiblement, c'est la perspective de la rencontre avec Depardieu qui fait que son outil essentiel et principal, qui est sa voix, tout d'un coup disparaît, ou quasiment.
Ça arrive.
Ça peut arriver, hein, parfois, Manu. Et lui, et là, ce qui devait se jouer au départ, forcément, qui était une sorte d'une différence et de taille et de coffre, enfin, voilà. Là, est renforcé encore, parce qu'elle est ce qui représente, ce qui est sa présence à l'antenne. Avec Manzoni qui est sa voix, elle devient toute petite et lui surjoue évidemment l'ogre en face. Donc et au final, on écoute cette émission parce que et jusqu'au bout parce qu'il y a une tension qui naît. Et c'est ça la situation en fait. C'est quel type de tension on instaure ou on subit. Et là, il y a une tension énorme. J'ai pas le souvenir du contenu de l'interview elle-même, mais c'était une émission magnifique parce que et magnifique aussi parce que Rebecca Mandoni l'expliquait, l'explicitait, comme on a entendu un petit peu. Et donc, elle a fini par le mettre en scène.
Un chapeau bien plus long où elle expliquait effectivement tout ce qui était en train de se passer.
Voilà, donc elle l'assume, elle le met en scène, ça lui échappe, mais elle le met devant nous. Et ça, et voilà la règle du jeu, entre guillemets, qu'elle met en face de l'auditeur. Et nous, on écoute pendant une heure. Alors, en plus, je crois qu'elle racontait qu'elle avait ramené 42 minutes d'interview pour une émission d'une heure. Donc, ça recréait encore une forme de tension. Alors, c'est peut-être, là, ça touche peut-être plus les gens de radio, mais je crois que ce face-à-face totalement inégal et pourtant qui est réussi, bah ça tient à ça justement, à cette situation qu'elle a réussi à nous présenter.
Alors la radio, ce serait donc affaire de tension, affaire de magie, affaire de fantôme aussi, hein, vous y revenez dans l'hypothèse du Baobab, Thomas Baumgartner. La radio aurait aussi évidemment même, dites-vous, affaire avec la mort, affaire avec les morts. Et je me demandais, sur cette question, presque cette dimension presque occulte, au fond, de la radio, je me demandais ce que vous aviez fait de cette dimension-là dans votre propre pratique de la radio.
J'ai beaucoup travaillé les archives et les archives de voix, de radio. J'ai eu cette chance-là de pouvoir le faire régulièrement sur cette antenne, sur France Culture. Et au-delà d'une dimension patrimoniale, c'est vraiment un exercice de co-présence. Quiconque se retrouve en face d'un enregistrement, en particulier de radio, parce que très tôt, il y a des enregistrements de très bonne qualité, donc on se retrouve avec des enregistrements vraiment, quand je parle de présence, de mise en présence de voix, de... On va pas parler de spectre, mais en tout cas, voilà, on a... Il y a deux dimensions. Il y a les voix avec lesquelles on n'a jamais été... confrontés de leur vivant, mais malgré tout, il y a une présence d'une personne qui nous parle. Et puis, il y a les voix qu'on a connues. Et tout d'un coup, là, on vit une forme de résurrection. Donc, ça va un peu loin d'en parler comme ça, mais malgré tout, il y a des moments comme ça, d'émotions extrêmement fortes, de coprésence entre nous aujourd'hui et la voix d'hier qui se retrouve malgré tout aujourd'hui.
Alors cette histoire de coprésence, la voilà mise en onde par Blaise Sandrard.
Connaissez-vous les archives sonores? C'est rue d'Université. Un grand immeuble coupé longitudinalement par de longs corridors est divisé à chaque étage en une infinité de petites cellules. Chaque cellule est divisée à son tour par des rayons et des cloisonnages, des casiers qui contiennent des disques, des milliers et des dizaines de milliers de disques. C'est dans l'une de ces cellules que je me suis trouvé être enfermé toute une nuit. On m'avait oublié à je ne sais quel étage, ni ne sais-je dans quelle aile du bâtiment. Personne ne m'avait prévenu à l'heure de la fermeture. Tout le monde était parti, j'étais sous clé. Alors, que faire? Sinon piquer au hasard dans le tas et faire tourner les disques des archives. C'est long, une nuit. C'est ainsi que j'ai composé cette espèce de poème sonore que vous allez entendre, un poème fait de pièces et de morceaux, de toutes les voix, de tous les bruits du monde, des rythmes. Les rythmes, les bruits du monde. Tourbillon des mouvements dans l'espace. Naissance. C'est l'explosion de Nebout de la grosse Bertha sur la maternité de la rue d'Assas. Explosion qui fit tant de victimes parmi les femmes perturbantes. Les cris que vous entendez ne sont pas ceux d'une victime, mais tout au contraire, les cris vainqueurs d'un nouveau-né qui vit, qui lutte et qui veut vivre.
La voix de Blaise Sandrard, Bruit et rythme du monde, diffusée sur Paris Inter, c'était le 28 juin 1952, réalisé par Georges Godvert, pour être précis, à partir des archives de la phonothèque. Et alors, comme ça tombe bien, Pierre-Marie Héron, c'est une archive que vous aviez vous-même demandé à entendre également. Comme ça, vous étiez deux autour de cette table. J'imagine qu'il faut parler de fiction de situation et qu'il ne faut évidemment pas croire Blaise Sandrard quand il nous raconte cette histoire.
Oui, donc c'est une petite fiction facétieuse de Blaise Sandrard, évidemment. Il s'agit en fait d'une commande dans le cadre d'une exposition des archives et de la documentation sonore de la phonothèque de la RDF. Et donc, il fin d'être enfermé dans la phonothèque, on l'a aidé un petit peu à choisir. Et puis, c'est une émission assez composée, c'est une vraie composition sonore, mais c'est un poème en même temps, une espèce de poème, parce qu'il y a un travail de sérialité. On rassemble des cris de naissance, on rassemble des bruits d'école d'un peu partout, des bruits d'armes. C'est de la poésie planétaire. Ça correspond vraiment aussi à ce qui est pour les premiers poètes de la radio dans les années 20. Je pense à Carlos Larrondo, à Fernand d'Ivoire. Ce qui est la poésie propre du médium, c'est la poésie de l'espace. Et donc, on est comme une sorte d'oreille du cosmos qui vient saisir et capter des bruits de partout, bon, à partir des archives qu'il range en son mort, qu'il vient réveiller. Et la voix du poète est assez discrète, en fait. Elle fait comme une sorte de petit fil conducteur. Elle se glisse dans les interstices de ses montages. Et pour moi, c'est vraiment une très belle réalisation de ce que la radio, comme telle, peut produire comme création poétique.
Alors, c'est une voix, néanmoins, même si elle est assez discrète, celle de Blaise Sandrart, c'est une voix qui prend le micro, et donc ça veut dire c'est une voix qui dit « écoutez-moi », qui dit « écoutez-moi » à un auditeur ou aux auditeurs. Et sur cette question l'auditeur, dont on n'a encore pas beaucoup parlé, Thomas Baumgartner, jusqu'ici, j'aimerais qu'on entende une archive que vous avez demandé également à entendre, Thomas Baumgartner, qui est une archive alors qui demande qu'on la contextualise un petit peu, puisqu'il s'agit d'un extrait de L'homme au magnétophone. Alors, comme j'ai la voix qui déraille un petit peu, je vais vous laisser contextualiser cette archive qui raconte une histoire avant même qu'on l'écoute.
L'homme au magnétophone, c'est quelqu'un qui s'appelle Andrew Orr qui me l'avait fait découvrir. Et L'homme au magnétophone a été diffusé sur France Culture, je crois, en 72 dans l'atelier de création radiophonique. C'est pas de la radio au départ, c'est quelqu'un qui prend son psychanalyste en otage et donc l'empêche de sortir du cabinet, et il enregistre tout, cette personne enregistre tout. Il se trouve que le soir où on a diffusé, nous en 2009, dans l'émission avec Andrew, c'était un extrait de L'homme au magnétophone, on a annoncé vers 22h sur l'antenne le sujet de l'émission de 23h. Et quelqu'un m'appelle, qui était un critique d'art spécialiste des Dada, qui s'appelle Marc Dachy, qui était natif de Bruxelles lui-même, et qui me dit « je connais L'homme au magnétophone. Je connais, je sais qui est le patient en question. »
Mais on le sait depuis un moment.
Voilà, c'était Jean-Pierre Abrahams. Et c'est proprement saisissant. Voilà, on va dire que c'est totalement saisissant. Des gens après m'ont dit, ils sont tombés au milieu de l'émission quand on l'avait diffusé, mais c'est quelle fiction ça? Mais non, c'est la réalité.
Et où précisément Abrahams va définir. Alors il vient. Alors, juste avant qu'on en écoute un petit morceau, hein, parce que ça dure 40 minutes à peu près, avant qu'on en écoute un petit morceau, donc il prévient qu'il va enregistrer. Il a passé des années quand même en cure avec ce psychanalyste avant, et il vient demander des comptes au psychanalyste en l'enregistrant, et il présente d'ailleurs le magnétophone comme un auditeur, au fond, comme un auditeur bienveillant même. Alors on a un peu la peine à le croire, on l'écoute.
Je voudrais que vous asseyiez. Je voudrais que vous asseyiez. Asseyez-vous.
Violence. Mais non.
Violence.
Mais non.
C'est du théâtre. Oui, c'est du théâtre.
Je vous ai donné l'occasion de vous expliquer et de vous proposer.
Pas du tout, vous m'avez coupé. Vous avez interrompu l'explication que je voulais vous donner.
Mais je ne vous ai pas demandé de parler, je vous ai demandé de me laisser parler.
Vous êtes assurément prévu.
Vous avez sauté par la fenêtre? Vous avez vraiment sauté par la fenêtre? Il est vraiment sauté par la fenêtre.
Extraordinaire.
Comment du théâtre.
Ça va finir par un drame.
Sanglant.
Ça va saigner.
Ça va saigner. Qui va saigner? Qui va saigner?
Ça va finir.
Mais non. Ça va pas finir comme ça. Ça va finir très gentiment. On s'amuse beaucoup.
Ça va terminer.
Mais non, alors on va pas terminer sur les violences quand même.
Vous? Laissez-moi ouvrir la porte et quitter.
Que vous avez peur? J'ai pas du tout envie de vous engueuler. Je devrais que vous commenciez à parler sérieusement.
Moi, je vous parle sérieusement, il est l'heure.
Quoi?
Il est l'heure et j'ai les personnes.
Comment il est l'heure?
Mais
il est l'heure des comptes. Sûrement.
Je regrette beaucoup.
Comment vous regrettez beaucoup? Mais moi, vous permettez, mais moi, je regrette beaucoup. Vous m'avez rendu dingue, vous m'avez rendu fou pendant des années. Pendant des années. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours!
Taisez-vous.
Taisez-vous et asseyez-vous.
Au secours!
Au secours! Je vous baïonne.
Au secours!
Pauvre con, hein. Pauvre idiot.
Asseyez-vous. Asseyez-vous.
Au secours.
Pourquoi avez-vous peur?
Au secours.
Parce que vous êtes
dingue.
Mais non,
vous dites pas
que c'est...
Au secours.
Vous avez peur que je vous coupe le zizi?
Au secours.
Quel enregistrement rigolo.
Ça sera rigolo.
Très rigolo.
J'ai le train. Regardez ça. Au secours.
Quel enregistrement rigolo, oui. Comme il dit. Pierre-Marie Héron, vous connaissiez, j'imagine, cet enregistrement ?
Je l'ai découvert l'année dernière en travaillant sur l'atelier de création radiophonique. Rigolo, oui, inconfort, malaise en même temps.
Oui, non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Abraham qui dit quel enregistrement rigolo. Moi, je le trouve une extrême violence.
Il le dit de l'intérieur, mais quand on l'écoute à distance, oui, c'est très, très violent. On est très inconfortable sans bien savoir exactement. Bien sûr, le dénouement est positif, mais c'est qu'une sorte de documentaire sauvage,
c'est ça, ouais.
Improvisé, et on sent qu'on est dans le drame, parce que quand on l'écoute, on est immergé en fait dedans, et donc je trouve que c'est la puissance aussi de feu, hein, de cet enregistrement.
La radio est le lieu où le fou est autorisé à parler, écrivez-vous, dans l'hypothèse du baobab, Thomas Baumgartner. Est-ce que c'est toujours le cas? Et en vous posant la question, j'ai une petite idée de la réponse. Et est-ce que ce changement-là, on dirait plus long sur la place des fous que sur la radio?
Le fou au sens où, hors des clous, hors des rails, et tout l'intérêt d'une radio... De la liberté de la radio, parce que la radio est un média d'une extrême légèreté et d'une extrême liberté potentielle, c'est justement de donner sa place à la marge plus facilement que potentiellement que partout ailleurs. Donc c'est en ce sens que j'ai écrit ça.
En ce sens, et aussi, vous datez par exemple l'origine de la radio moderne pour en finir avec le jugement de Dieu d'Artaud en 47 ans.
Oui, parce que c'était aussi, on va dire, la pièce fondamentale d'une époque de naissance d'une radio assez explosive avec le club d'essai, avec des expériences littéraires aussi à la radio. L'homme au magnétophone n'était pas une pièce de radio au départ. Hein. Ça a d'ailleurs fait plutôt d'abord l'objet de textes dans des revues de psychanalyse, plusieurs années avant que cet ACR de 72 le fasse entendre. Et donc...
Peut-être monté sur scène aussi.
Ah oui, ça je savais pas. Voilà. Donc, ce qu'on a entendu, c'est du théâtre. Bah oui, effectivement. Là, on est dans ce mélange-là où, grâce au fou, et là je mets une multitude de guillemets, on se retrouve à comprendre ce que peut nous faire ressentir notre média.
Alors le dernier chapitre de l'hypothèse du baobab fait comme écho à ces mythologies de poche de la radio que vous élaboriez pour France Culture. Il y a là Pierre Arnaud, José Arthur, il y a Billedou, Mallet, Dumayet, Grenier, tous placés sous le signe de la contrebande. Et puis parmi ces contrebandiers, il y a celui-ci.
C'est Alexis Léger, dis-je, qui nous reçoit debout devant son livre. Tout... en cette image photographique, exprime une réserve hautaine et quelque chose qui ressemble au défi. On voit un visage fermé, brun, serré sur lui-même comme un poing contracté, un masque de bronze ou d'or, bouche scellée, que traverse un regard dardé, lancé vers quelques confins éloignés. Les bras croisés cachent les mains dans le pli des manches, d'un veston sombre à rayures, d'une coupe sévère et strictement boutonnée. Le langage que tient depuis plus de 40 ans cette bouche que j'ai essayé d'évoquer, c'est celui que nous allons essayer aujourd'hui, Pierre, Emmanuel et moi, non point tant d'élucider ou de vous faire entendre, mais simplement d'évoquer avec vous.
Un extrait de l'une des 9 soirées Saint-Jean-Perse imaginées par Jean Amrouche avec Pierre-Emmanuel. On est le 9 janvier 1954 pour l'émission Des idées et des hommes sur la chaîne nationale. Alors c'est une écriture qu'on entend, mais c'est aussi quelque chose qui, à défaut de l'entendre, dit le corps du poète Pierre-Marie Héron, enfin qui décrit en tout cas le corps du poète. Et au fond, c'est bien la première chose que les poètes doivent à la radio, c'est-à-dire qu'on leur donne un corps, ce qui prendrait peut-être un peu à revers ce que vous disiez, Thomas Baumgartner, c'est-à-dire qu'au fond, les entendre les poètes à la radio, oui, c'était brusquement, d'une certaine façon, leur donner un corps. Pierre-Marie Héron.
Ça reste un corps, en général, concentré dans une voix. Bon, la pratique du portrait d'écrivain est assez généralisée à la radio. On fait volontiers, on se substitue à l'absence de vision par ces exercices de description. Ici, ça part d'une photographie, qui est la photographie qui est posée en frontispice de la première édition de l'œuvre poétique de Saint-John Perse, en 1953, chez Gallimard. C'est comme pour créer un seuil, mais un seuil que l'on va assez rapidement abandonner, parce qu'après, on va ensuite se promener dans la poésie de Saint-John Perse, et son corps devient ce que le vers en fait. Il devient donc une parole d'une extraordinaire densité, une parole qui navigue avec les différents rythmes du vers libre, comme il est presque de coutume à partir de l'émancipation du vers réglé au début du XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout, au contraire, devient présence à travers cette question d'un rapport au livre, donc d'une voix qui elle-même s'est réincarnée dans un langage, dans un style, d'une part, et d'autre part, à travers une évocation entre deux poètes qui vont dialoguer autour de cette œuvre de Saint-John Perse, qui, on le sait, refusait de se produire à la radio et donc de faire entendre aussi sa propre voix.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Alors, le long texte, Pierre-Marie Héron, que vous consacrez à Jean Amrouche dans l'ouvrage collectif Poésie sur les ondes, La Voix des Poètes, producteurs à la radio, c'est un petit peu long, mais c'est aussi le titre d'un colloque, hein, de la parution des actes d'un colloque. Et le texte que vous consacrez à Amrouche s'intitule « Jean Amrouche, journaliste, mais poète ». Qu'est-ce qui se loge dans ce « mais » ? Est-ce que c'est une opposition ? Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que c'est une posture ? Une hiérarchie ?
Fondamentalement, Jean Amrouche se découvre, se vit poète, se regrette poète raté, et va trouver dans les formidables émissions de radio qu'il va pouvoir produire, non seulement en conversation, dans le cadre des entretiens feuilletons radio, que c'est la face la plus connue, mais aussi dans cette émission Des idées et des hommes, une manière de pouvoir redevenir poète en conversation autour de l'œuvre de poète ou en conversation avec des poètes. Donc journaliste, parce que c'est son métier, et parce qu'en même temps, ça correspond, comme vous l'avez dit au début de l'émission, ça correspond aussi à un mode d'intelligence, un mode d'être, un mode de relation dans lequel il excelle. Il est excellent dans le dialogue. Et donc la radio est un médium de conversation, de dialogue, de contact, de rencontre, d'échange. Et donc c'est un domaine dans lequel ce garçon est extrêmement doué pour la parole et berbère, d'origine kabyle, ayant donc aussi intégré et intériorisé ce rapport de l'ancien colonisé à la patrie française, pratiquant aussi cette sorte de surconscience linguistique et habituelle chez des personnes dont le français n'est pas la langue native, et donc jouant aussi, créant une sorte de rapport un peu de domination, un enjeu de domination dans ses rapports de dialogue avec ses interlocuteurs ou avec ses pairs. Et donc, il va utiliser ce talent et cette profession du journalisme pour pouvoir, petit à petit, pour cette émission Des idées des hommes, réintroduire ce qui est le cœur, en fait, de sa préoccupation, mais dans une position qui n'est plus celle d'un producteur de poèmes, puisque on a réuni deux volumes posthumes de textes de poèmes au sens traditionnel qu'il a pu écrire après la Seconde Guerre mondiale, mais l'essentiel de son œuvre se réduit à deux recueils et demi, à deux recueils sous signature Cendre et Étoile secrète en 34 et en 37, et puis il a ensuite recueilli et transposé Les Chants Berbères de Kabylie en 39, donc c'est une œuvre de dépositaire, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Donc, il est poète en exercice dans les années 30, et puis après, il est poète par procuration, en quelque sorte, à travers ses émissions de poésie dont il va truffer l'émission des idées et des hommes.
Comment est-ce que vous décririez alors ce talent de dialoguiste, hein, plus que d'intervieweur d'ailleurs, si le terme est peut-être plus juste, qui va lui permettre de redevenir poète, pour qu'on se rende compte un peu de ce que c'était justement que l'art du dialogue, hein, chez Amrouche.
L'art du dialogue chez Amrouche, c'est d'abord l'art de pouvoir dialectiser, donc traduire dans un langage de pensée, un langage relativement abstrait, l'intuition, la vision du monde qui est celle du poète qui devient l'objet des émissions, donc il y a tout un talent intellectuel, un talent de rationalisation, un talent d'abstraction qui est assez formidable chez lui. Il y a deuxièmement une virtuosité dans le maniement du langage. Il a souvent eu affaire à des personnes qui étaient assez peu capables d'exprimer de manière fluide leurs pensées au micro. L'intimidation du micro ne joue pas du tout chez lui, et du coup cette virtuosité de la parole peut remplir l'espace, peut parfois, je le disais, un peu assiéger ou dominer son interlocuteur, parce que s'il a beaucoup réfléchi au dialogue comme le lieu d'une rencontre et d'un respect entre les pensées et les personnes, il y a quand même malgré tout une sorte de petit scénario qui se joue à chaque fois où il s'agit pour lui d'utiliser le biais du dialogue pour pouvoir s'inscrire comme un pair, un égal face aux autres. Alors l'égalité,
voir une petite hauteur,
supériorité de parole, voilà. Parce qu'il n'a pas la légitimité de l'œuvre écrite pour pouvoir à ce moment-là. Donc c'est vraiment dans son intelligence de la démarche poétique, dans son intelligence de la vision du monde du poète dont il est question, avec qui il dialogue ou dont il est question quand il parle avec Pierre-Emmanuel ou avec d'autres, que ça se joue. Et puis il était tout de même habité par une conception extrêmement grave, en fait, hein, de la poésie. La poésie est pour lui de l'ordre du sacré. Et donc... Plus spécialement quand il s'agit de poésie, il a cette posture vocale un peu particulière qui consiste à mettre de la noblesse de ton, qui n'est pas de l'emphase, mais qui est malgré tout, comme on l'a un peu entendu, je pense, dans l'extrait que vous avez donné, qui est quelque chose qui est de l'ordre d'une révérence par rapport à cette hauteur, cette noblesse de la poésie qui est le plus beau, la plus réalisation de la civilisation humaine pour lui.
Qui est un versant au fond de ce qu'on va pouvoir entendre à la radio après la guerre, enfin la radio publique après la guerre. Alors il y a aussi un versant, alors on pourra évidemment pas tout aborder, mais il y a également un versant plus peut-être côté variété, voire avec des tentatives du côté des sketchs, de l'humour en y associant la poésie, et du côté de la chanson aussi. Tout ça c'est ce que vous appelez la période Gilson, qui était donc le directeur artistique de la programmation de la radiodiffusion française, hein, de 46 à 63, presque 20 ans, et qui évidemment a laissé une empreinte. C'est à ce moment-là qu'on parle d'âge d'or de la poésie à la radio, c'est-à-dire après-guerre. Qu'est-ce que cette séquence-là, qui est longue, hein, dit, alors évidemment de la radio et de la poésie, hein, parce que tout ça c'est une histoire de la radio que vous écrivez et une histoire de la poésie par la radio, mais qu'est-ce que ça dit de ce que la radio, pardon, un lapsus, de ce que la poésie devait transmettre après-guerre? Est-ce qu'au fond, il y avait une sorte d'idéologie dans la représentation même de la poésie et du poète après-guerre?
Pierre-Marie, oui, certainement, parce que l'effet de la guerre a été de remettre au centre la poésie, mais comme une des grandes voies de la résistance et de la liberté, avec des poètes comme Aragon, comme Paul Éluard. Et donc il y a une formidable réputation, un succès de la poésie dans les années immédiates après-guerre, qui ne va pas durer excessivement jusque vers 1947-48, mais dont la radio va ensuite s'emparer pour faire de la poésie, dans l'élan de la guerre et en quelque sorte en l'institution récupère un peu cet élan, pour faire de la poésie et des émissions de poésie, eh bien, une occasion de pouvoir répandre largement ce trésor du langage de la poésie qui parle, comme disait Paul Éluard, la poésie parle au cœur de chaque homme. La poésie ramène à l'essentiel. Alors on va le faire un peu sur tous les tons. Là, on a cité une émission d'Amrouche dans Des idées des hommes. Amrouche s'est essayé au style un peu théâtre, ludique, un peu léger pour faire de la pédagogie et attirer aussi, séduire des auditeurs pour les attirer comme un enfant va faire boire un sirop amer en lui faisant aller d'abord une cuillère de confiture, par exemple.
Avec une série qui s'appelait L'Art Figure.
Là, il va proposer des entrées qui sont un peu des mises en scène sur un mode un petit peu de... un groupe d'acteurs qui se préparent à interpréter des textes de La Forgue ou une fiction de reportage jusqu'au bord du lac d'Evian où Madame Noailles avait sa maison s'était retirée pour créer une introduction aussi à cette poésie un peu oubliée de Madame Noailles. Différents styles sont tentés. Il y a une sorte de, pour moi, de feu d'artifice, d'effervescence, et c'est très beau de voir cette exploration tous azimuts de formules qui à distance peuvent peut-être nous faire sourire et qu'on peut regarder avec commisération si on a surtout une conception grave de la relation à la poésie, si on investit de beaucoup de métaphysique, ce qui n'était pas le cas de Sandrard, par exemple, qui pouvait faire un magnifique poème sur un oiseau tricolore, mais ça fait 4 lignes, et puis c'est juste une petite vignette magnifique, on s'extasie devant la beauté d'un oiseau. Si on va du côté de Bonnefoy, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un petit peu tout dans la poésie. Et donc, sans sectarisme, la radio, pilotée par Paul Gisson, qui était vraiment celui qui a donné l'impulsion de tout ça, la radio a donné leur chance à différents poètes de produire des émissions et de les produire un petit peu à leur façon. On va de Francis Carco Pierre Béarn, qui lui s'intéresse à des poètes plutôt mineurs et négligés, jusqu'à Pierre Emmanuel, qui lui est un petit peu, qui était le grand compère hein, de Jean Amrouche dans l'émission des Idées des Hommes, et qui lui va faire une émission intéressante qui s'appelle le poème et son image, où on prend un poème, et puis ce poème on le fait lire par l'auteur, puis lire par un comédien, puis lire par quelqu'un qu'on va vous ouvrir la porte de votre studio pour l'émission Compagnie des Poètes. Vous attrapez quelqu'un qui passe et puis vous lui demandez de lire le poème à chaud, comme ça, au débeauté.
Donc c'est un poème soutenu
à diverses lectures. Faites, vous voyez. Et donc, on teste différentes lectures et à travers le croisement de ces lectures, après, il y a une reprise de Amrouche qui avoue d'ailleurs sa difficulté à utiliser ces exercices de diction pour aboutir ensuite à un sens du poème, si pour dégager un sens. Enfin voilà, c'est un petit peu cette variété multicolore des formules d'émissions de poésie qui me semble caractéristique des années 50.
Alors, et qui vont perdurer, disons que la seconde séquence hein, que vous identifiez, là je vais vraiment très très vite, hein, parce que l'ouvrage collectif Poésie sur les ondes aborde évidemment des tas de questions et des tas de problématiques et des tas de formes différentes. La seconde séquence serait celle qui nous occupe, nous, hein, qui est celle de France Culture, à partir de 74. Alors, où évidemment, alors dans le désordre, hein, oui, je pense à André Velter, hein, parce que ça sera l'émission qui aura la plus grande longévité avec Poésie sur parole, mais aussi Frank Smith, Jean Dev, Para, et puis bien sûr Claude Royer-Journoux, qu'on écoute.
Par-delà un problème de texte, il y a un problème de voix. C'est-à-dire qu'en France, on n'a toujours pas compris que la poésie se lisait, que l'écrivain avait un corps, une voix, et pouvait lire ses textes. Ce qui fait que, par exemple, si l'on regarde dans les archives de la radio, on peut trouver sans doute Zara parlant très longuement du dadaïsme, mais aucun texte de Zara à 25 ou 30 ans lisant ses poèmes et les poèmes de ses contemporains, de ses amis, des gens avec lesquels il travaillait. Et je pense que le but d'une chaîne nationale, c'est tout de même d'enregistrer la voix de ses écrivains. Ça me semble, disons, la chose première. Donc il y a d'abord rompre avec l'habitude d'entendre un comédien lire un texte. Et que l'écrivain travaille souvent en lisant son texte, mentalement ou à haute voix même. Le critère, il est d'une part subjectif, c'est-à-dire les écrivains avec lesquels moi j'ai l'impression de travailler, hein, pour répondre franchement, c'est-à-dire les écrivains que j'aime tout bêtement. Et d'autre part, objectif, du moins je l'espère, c'est-à-dire les écrivains qui jouent un rôle dans la littérature moderne. C'est-à-dire que s'il y a un écrivain pas que je déteste, mais enfin un écrivain dont je me sens par exemple très lointain, et que je considère que cet écrivain a une influence profonde, que des tas de jeunes écrivains travaillent dans une certaine proximité, j'estimerais que c'est de mon devoir de le faire passer dans cette émission. Toujours dans ce but que de toute façon, le problème c'est d'enregistrer la voix.
La voix donc de Claude Royer-Journoux s'expliquant sur Poésie ininterrompue, hein, sur France Culture, le 24 octobre 1976, au micro de Jean Dève, Poésie ininterrompue, qui est donc l'émission à laquelle vous consacrez un texte dans le livre dont nous sommes en train de parler, Poésie sur les ondes, Abigail Lang. Cette question de faire lire les poètes, alors avant d'en venir à la forme très particulière qu'a pu prendre cette émission et à l'importance qu'elle a eue, en tout cas pour moi, ça c'est sûr, l'idée de faire lire les poètes plutôt que de faire lire des comédiens et ça a été difficile dans sa réception, ça a été compliqué, même si ça se faisait déjà avant, mais de le faire de façon systématique et de faire lire les textes uniquement par les poètes, est-ce que paradoxalement, c'est une façon de désacraliser la poésie ?
Oui, de désacraliser, de montrer comment c'est fabriqué pour que les gens s'en saisissent. Il avait cette idée, effectivement, d'en faire un instrument, de faire de l'émission poésie ininterrompue un instrument de travail. Peut-être d'abord pour les poètes, mais aussi pour les auditeurs, pour qu'on comprenne voilà, comment c'est fabriqué et un poème, et comment ça fonctionne, et en fait de donner envie d'écrire, et de désacraliser, oui, vous avez raison.
Vous parlez des auditeurs, c'est un moment aussi particulier, c'est-à-dire le moment où explose l'ORTF, donc c'est le moment de France Culture, c'est-à-dire aussi un changement d'audience, c'est-à-dire un rétrécissement considérable de l'audience, forcément, avec toutes ces nouvelles radios. Est-ce que cette seconde séquence-là, de la poésie à la radio, ou des émissions de poésie ou sur la poésie à la radio, vont changer volontairement de destination, c'est-à-dire d'auditeur, c'est-à-dire renoncer d'une certaine façon à toucher les auditeurs et à toucher, comme vous venez de le dire, au fond, les poètes ou les lecteurs, d'ailleurs, plus que les auditeurs.
Oui, en tout cas, il y a un renoncement à l'audience de masse et le format de l'émission en prend acte, c'est-à-dire que on entendait pour toute la semaine à raison de 4 fois par jour pendant 5 minutes un poète qui était ensuite interviewé le dimanche pendant une quarantaine de minutes. Donc en tout, sur la semaine, on entendait ce poète pendant 2 heures, mais à dose homéopathique. Ça touche des auditeurs différents qui n'écoutent pas évidemment la radio toute la journée, enfin a priori. Cette poésie a été perçue comme difficile par beaucoup d'auditeurs. Et Claude-Roy Journoux explique que voilà, même si les gens n'accrochent pas tout de suite, parce qu'ils savent que ça ne dure que 5 minutes, ils vont écouter et donc ça rentre quand même dans l'oreille. Et donc ça fait voilà, par dose homéopathique une exposition à la poésie contemporaine, vraiment contemporaine, qui est effectivement plus difficile d'accès pour beaucoup d'auditeurs que la poésie des années d'après-guerre, ou qui a quelque chose de plus... Voilà, une poésie qui est fondée sur un sentiment voilà, national de l'après-guerre.
Et d'entendre le poète lire son propre texte, ou lire parfois à l'occasion d'ailleurs aussi des textes qui ont pu être importants pour eux, ou des textes qui travaillaient leur propre écriture, qu'est-ce que ça pouvait donner comme, je sais pas, comme indication, comme compréhension autre de ce qu'étaient ces poètes-là par rapport à ma foi, les habitudes qu'on avait avant, qui étaient de faire lire par un comédien, ce qu'on fait toujours. Mais néanmoins, c'est vrai que maintenant, l'idée que le poète lise ses propres textes paraît être une évidence, et ça a été prolongé même dans les mêmes années par Emmanuel Occar à l'Arc, qui, j'imagine, est dans la droite ligne de ce qu'a pu faire Claude Royer-Journoux.
Oui, c'est-à-dire qu'on entendait des poètes lire à la radio, mais je crois que c'est Occar qui dit ça. Quand ils étaient très très vieux, avec la voix chevrotante, là il y avait une volonté de faire lire beaucoup de poètes en plein travail, des poètes jeunes, des poètes divers, et aussi des écrivains, parfois des psychanalystes, des historiens, mais bon, des écrivains et principalement des poètes. Il y a une grande résistance de la part des auditeurs qui se plaignaient que les poètes lisaient mal. Alors ça rejoint ce que disait Thomas Baumgartner tout à l'heure, il y a une grande vulnérabilité de la voix, et la radio fait passer ça, enfin l'émotivité, quelque chose de vulnérable. Et alors Royer-Journoux, lui, endossait cette vulnérabilité et voulait la faire entendre. Donc c'est ce qu'il dit dans l'extrait qu'on a entendu. Un poète, c'est avant tout, c'est aussi un corps, donc il y a une présence. Et au-delà de cet effet de présence et d'émotion, d'affect, il y a aussi tous des éléments sociologiques, disons, donc les accents régionaux, les accents peut-être de classe. Royer-Journoux en appelle, il le dit dans un entretien, à des analyses sur la façon dont les poètes lisent, c'est-à-dire que alors pour lui, ça donne, c'est aussi une autre façon d'avoir accès au poème. Voilà, un poème sur la page dont on n'a pas forcément les clés. En l'entendant, ça offre une autre entrée dans le poème, une autre voie d'accès.
C'est une histoire qu'il reste à écrire, Pierre-Marie Héron, que l'histoire de la façon dont les poètes lisent leurs poèmes.
Il y a un livre qui porte sur l'histoire de la lecture. Je ne sais plus quel est l'auteur argentin.
Il y a Alberto Manguel.
Cet ouvrage. Voilà, Alberto Manguel, c'est ça. Hein. Donc je pense que là, il y aurait aussi une histoire de la lecture à la radio à faire. Alors je vois quelques travaux de démarrage de thèse qui commencent à porter sur la question de la voix des écrivains et qui va certainement prendre aussi en compte la question de la lecture de textes, plus largement que de poésie simplement par leurs auteurs à la radio. Mais c'est un objet qui est difficile à ramasser, comme disait Cocteau. On n'est pas bien doué pour savoir exactement comment analyser les traces idéologiques, l'empreinte sociologique ou les accents individuels d'une voix. On a des beaux textes de Proust là-dessus, par exemple, mais en tout cas, dans ma discipline, on n'est pas très armé pour pouvoir faire ça. Je salue le travail de Céline Pardo, qui, dans la poésie hors du livre, a tenté de mettre en place une méthode d'analyse de ce type de phénomène, notamment à propos de l'émission de Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu.
Un souvenir, ça pourrait aussi être ça.
Quoi qu'a dit, a dit rien. Quoi qu'a fait, a fait rien. À quoi qu'a pense, a pense à rien. Pourquoi qu'a dit rien, pourquoi qu'a fait rien, pourquoi qu'a pense à rien. N'existe pas.
La voix de Jean Tardieu, bien sûr, la môme néant. Alors donc oui, les poètes lisaient aussi leurs propres poèmes, y compris dans les années 50. Je pensais à ça parce qu'on parlait de souvenirs et que c'est aussi, j'imagine, pour beaucoup un souvenir d'enfance. Et je me demandais, Thomas Baumgartner, Pierre-Marie Héron, Abigail Lang, si la radio et le rapport à la radio n'avaient pas forcément toujours rapport à l'enfance.
La radio a rapport avec la vie hors la radio, c'est-à-dire que elle nous accompagne et réentendre une émission ou réentendre un indicatif, un générique d'émission, en particulier la musique a cette force-là aussi, nous replonge plus volontiers dans l'époque de la vie où on l'a entendu. On la revoit, on revit ce moment-là. L'effet Madeleine de Proust de la radio est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et c'est justement parce qu'elle n'est que son que tout le reste a encore de la place, qu'elle nous laisse les mains libres, qu'elle nous laisse les yeux libres. Et tout d'un coup, tout ça se mélange et on fabrique notre propre expérience radiophonique et donc le souvenir, oui, oui. Alors après, on saura dans les années qui viennent si les gens qui n'ont jamais entendu de radio dans leur enfance ou très peu pratiqué ça, s'y mettent après, puisqu'apparemment, on se rend compte que l'écoute chez les gens jeunes est moins forte qu'elle l'a été. Est-ce que ça va transformer l'écoute, la fabrication, l'existence de la radio dans les années qui viennent? C'est une question qu'on peut se poser. Et après, effectivement, la Madeleine, quand elle se rapporte à l'enfance, elle est d'autant plus forte.
Alors on aurait dû parler d'Armand Robin, de Soupeau, dont il est très peu question dans Poésie sur les ondes par ailleurs, de cette petite histoire de la diction que l'ouvrage écrit en sous-texte, de l'influence de la radio dans l'invention de formes poétiques neuves, sur cette idée qui traverse tout le livre qu'il appartient ou qui pourrait appartenir à un poète de nous introduire dans le monde d'un poète, précisément un poète. J'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps, évidemment, d'aborder tout ça. Thomas Baumgartner, à l'entrée micro de l'hypothèse du baobab, vous parlez du fantasme à jamais irrésolu du reporter, enregistrer ce qui a été dit juste avant qu'il dégaine son micro, à la différence de l'animateur qui, lui, rêve de commencer réellement l'émission au moment où elle se termine. Alors, c'est la meilleure des transitions. Merci pour elle. Pour vous remercier, Abigail Lang, Pierre-Marie Héron, Thomas Baumgartner, puisque c'est la fin de cette émission, ou presque, que je vous laisse la terminer ou commencer. Donc, entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Donc là, on est...
Seul.
On est seul.
On est seul.
C'est-à-dire qu'on est sans filet.
Voilà.
C'est dire qu'on n'est pas obligé de se poser des questions.
Non.
On peut, voilà, on peut discuter simplement.
Voilà.
Et je ne sais pas où Manu Farine est partie.
Elle
n'a pas dit qu'elle revenait non plus.
Non, elle ne reviendra pas, je ne crois d'accord. pas. Non, c'était ça le défi.
C'est un aller sans retour, c'est un retour, oui.
Moi, je peux prendre la parole simplement pour... La radio telle que je la vis maintenant et telle qu'elle me passionne, c'est une découverte plutôt de l'âge adulte. Alors, est-ce que la radio a quelque chose à voir avec l'enfance? Oui, en un sens. Si on dit que la poésie a à voir avec l'enfance aussi, comme disait Baudelaire, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Et pour moi, la radio qui compte, c'est une radio qui vient toucher en moi quelque chose qui est encore plein de fraîcheur, plein de naïveté, plein d'envie de faire confiance dans la vie, dans le monde. Et donc c'est une parole qui a besoin de cette réceptivité-là, un peu une sorte de confiance religieuse, comme disait Proust, que la littérature, c'est l'instinct religieusement écouté dans le silence, c'est pouvoir écouter. Et j'aime beaucoup ce que dit Claude Royer-Journoux, que la poésie, c'est pas lié à des formes particulières, c'est tout ce qui a densité de parole. Et je sais pas si Abigail Lang... vous avez aussi raisonné à cette formulation-là, parce que du coup, la poésie, on peut aller la chercher partout. Et du coup, toute la radio qui nous intéresse, c'est la radio qui a une densité de son. La parole étant un élément du son, bien sûr, mais voilà, c'est d'un côté la radio courante, la radio d'information, la radio de communication, et puis même dans la radio de communication, des magnifiques choses. Et puis de l'autre, une radio qui se compose un petit peu parce que elle pense son instrument. J'aime bien ce que Proust dit à propos de Flaubert. Flaubert, à la différence de Balzac, qui pense sa pensée. Bah, ça fait pareil. Une radio où les choses ont de la densité et du coup, une présence, une incarnation se donne à sentir.
C'est pour ça que c'est bien les émissions de radio qui parlent de radio.
Alors ça, on aime bien en général, oui, parce que c'est le moment où justement la radio peut s'interroger sur elle-même et dire, eh ben, où est-ce que j'en suis? Et il vaut mieux ça que la pensée, c'est sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, toutes les émissions de poésie par des producteurs eux-mêmes poètes sont accompagnées de réflexions sur la diction, sur ce que la partition sonore pouvait ajouter ou pas ajouter, les inflexions de la voix, les subtilités de la mise en onde, la prise de son, l'enregistrement, tout ça. Est-ce que ça ajoute un sens au contenu qui a un sens valable ou pas? Je me souviens de réflexion de Tardieu qui disait, mais quand on écoute Éluard dans Poésie ininterrompue, il y a quelque chose de différent qui se révèle, c'est des accents d'un grand bourgeois socialiste. et de même qu'avec Reverdy, c'est une diction très méditerranéenne, un accent, et que ça vient colorer une poésie qui est beaucoup plus nue, beaucoup plus aride à la lecture. Donc il y a comme une manière de justifier aussi la lecture à la radio, au-delà du fait de vouloir juste communiquer et partager des passions, c'est de pouvoir révéler aussi dans un poème des éléments inaperçus à la lecture.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la préparation, Thierry Beauchamp, à la technique à Paris, Lucas Derode, Nicolas Echen à la technique à Montpellier pour France Bleu Hérault, que l'on remercie, et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour, Abigail Lang, Pierre-Marie Héron, Thomas Baumgartner sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.